Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ouais, là, je m'entends.
Ah, pas le choix, là. On y va. Va
falloir que tu... je vais essayer de faire ça demain, pareil. Ouais. Je parlais l'autre jour avec, quelqu'un qui me parlait que ses roulottes avaient été inondées.
OK.
Et puis, lui, il me disait que ça faisait une quinzaine d'années qu'il avait ces roulottes-là. Et puis, c'est la première fois qu'il se faisait inonder.
Ouais. Tout le temps surprenant.
Et puis, là, il me dit, ah, tu sais, avec le réchauffement climatique, on sait plus à quoi s'attendre et puis tout ça. Et puis, en jasant avec un petit peu, on s'est rendu compte que plus haut, en montant, parce que faut comprendre un petit peu comment est-ce que les bassins versants fonctionnent, comment est-ce qu'une rivière, ça peut partir de toutes sortes de petits ruisseaux, de petites veines d'eau et puis tout ça. Et puis, en leur faisant remonter un petit peu le cours d'eau, il s'est vite aperçu qu'il y avait des grosses coupes forestières plus haut.
Ben oui.
Et puis ça, moi, je le vois chez nous, à mon camp, c'est la première fois qu'on voit de l'eau arriver dans la cour du camp, de par la montagne qui a été bûchée il y a à peu près 5 ans. Ouais. Okay. Ça veut dire que l'eau, elle rentre plus dans le sol. Tu sais.
Mm-hmm.
Et puis, ça, c'est des gros problèmes. En Chine, je lisais l'audio qu'en Chine, ils peuvent plus couper leur forêt parce que ils ont leur érosion du sol. Même quand on parle coupe forestière, on met aussi les champs là-dedans et puis ça. Ils ont compromis le cycle de l'eau. Alors, ils vont acheter en Europe le bois. Puis je sais qu'ils l'achètent dans l'Ouest canadien.
Ouais,
je sais pas si au Québec, on leur vend notre bois encore.
Ça serait pas surprenant.
Mais dans le fond, eux autres, ils font des meubles puis ils nous revendent ça à 4 fois le prix que c'est supposé être.
Okay? Oui, mais en même temps, des fois moins cher pareil, là, parce que leur main d'œuvre puis est cheap, puis leur dollar est dévalué, fait que ça leur donne un petit break pour nous repitcher nos affaires qu'on aurait dû traiter nous-mêmes ici, puis se donner à nous-mêmes la plus-value de construire la patente. On les aurait fait moins chipettes pour qu'ils pètent moins vite aussi. Là. Mais ouais.
Ben, tu sais, le problème, c'est de vendre notre ressource et puis recréer leur problème à eux. Donc, nous autres aussi, on va fesser un problème, c'est-à-dire qu'on va briser l'hydraulique. Parce que la Terre, elle a une hydraulique.
C'est un système. Chaque sous-système a ses propres sous-systèmes, comme tu disais tantôt, les petits ruisseaux. C'est un ruisseau en soi, c'est un réseau, c'est toutes sortes de sources. C'est un bassin versant qui en a un plus gros puis un plus gros. Puis la Chine, c'est immense. Là. Faut pas penser que ça arrive juste aux autres, même parce qu'on a un territoire si grand que ça. Si c'est arrivé en Chine, ça peut arriver ici. OK, il n'y a pas la même population puis il n'y a pas les mêmes besoins. Mais effectivement, ils ont réussi à fucker leur hydrographie. Puis on entend de plus en plus parler. Tu sais, j'ai fait un post hier avec la station. Il y avait un avion qui avait fait un rond, un loop dans le ciel au-dessus de Lévis. Beaucoup de monde paranoïe un peu sur les chemtrails. Dans le temps, ils parlaient que ça c'était pour nous empoisonner. Là, je pense que les arguments les ont amenés à comprendre que c'était impossible. Parce que ceux qui veulent l'empoisonner s'empoisonneraient eux-mêmes. Mais là, ils sont rendus qu'ils me parlent de changement dans la météo. Mais ça, en Chine puis en Russie, c'est beaucoup plus vrai qu'ici. Ici, il y a peut-être des tests qui se font, là. Mais en Chine, ils ont plus le choix à bien des occasions. Ils vont devoir ensemencer des nuages pour qu'il y ait un peu, enfin, de la pluie dans une partie qui a une sécheresse ou un peu moins dans une partie où il y a des inondations.
Mais ça, c'est Guillaume, ça, c'est la folie un petit peu de l'être humain, parce que les forêts en soi, les vieilles forêts, créent leur propre écosystème. Les forêts créent... ils ont longtemps pensé... En tout cas, ça a pris du temps avant qu'ils comprennent qu'en fait, c'était les forêts qui créaient les nuages. OK? C'est tout qu'un processus complexe. Juste la nappe phréatique. L'eau qui se rend dans la nappe phréatique, là, c'est très, très minime. Quand la goutte d'eau part, tombe sur l'arbre, déjà là, il faut que l'arbre soit imbibé d'eau énormément pour que vraiment l'eau absorbée. Finisse par toucher le sol. Mm-hmm. L'eau qui reste sur l'arbre, elle repart en évaporation, crée un nuage et c'est une forêt plus loin qui va s'en procurer. C'est 500 litres d'eau par jour qu'un arbre boit, consomme.
En moyenne.
C'est 500 litres d'eau par jour. OK? Alors, les arbres pompent de l'eau. C'est inimaginable comment est-ce qu'une forêt peut pomper de l'eau. Par contre, c'est à 500 litres d'eau-là, l'arbre le garoche dans l'atmosphère. Mm-hmm. Okay? Il renvoie l'eau dans son atmosphère. Mais ce 500 litres d'eau-là, c'est de l'eau qui, même de par la pluie, n'a pas réussi à, si tu veux, aller toucher encore la nappe phréatique. Et puis, ce que l'humus récupère comme eau, c'est encore plus grand.
Okay. Ah ouais.
Et puis après, tu vas avoir le sol arable. Quand ce qu'ils font, par exemple, une coupe forestière, ou quand ce qu'ils font un champ, ils enlèvent l'humus puis ils se rendent directement à la couche arable. Les machines qui pèsent des tonnes et des tonnes, comme dans les coupes forestières, ils viennent par écraser le sol. C'est un sol qui a pris des millions d'années à devenir. On va comparer ça comme une éponge. Okay? Mais l'éponge, là, elle s'est faite compacter. Donc, quand la pluie, elle tombe dans nos champs ou dans nos coupes forestières, elle coule directement à la rivière.
Exact.
Puis ça, c'est un processus qui est, c'est planétaire. Les autoroutes qui traversent les pays avec un fossé de chaque bord coupent toutes les veines d'eau.
Absolument.
Et les redirigent directement au petit ruisseau qui mène à la rivière, qui mène... au lac, à l'océan. Donc, l'eau est, au lieu de rentrer directement dans le sol, elle est dirigée toujours de plus en plus vite. Donc, le gars qui me disait, mes roulottes, ils ont été inondées, ça fait 15 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Ah, le maudit réchauffement climatique.
Ah!
Finalement, en remontant plus haut, en allant voir plus haut, il faut imaginer toute l'eau qui tombe, ou qui va fondre, la neige qui fond directement, au lieu de rentrer dans le sol, de par l'humus, la terre qui est compactée, elle coule directement à rivière. C'est énormément, énormément d'eau, là.
Le climat global, c'est quelque chose qui est extrêmement intangible, mais on est là-dessus comme Don Quichotte des moulins à vent. Tandis que ce qui est régional, on n'est pas capable de s'imaginer que ça a des impacts. T'sais, même les barrages, là, c'est très bon pour l'environnement. Il n'y a pas de CO2. Tu le sais comment une masse d'eau, pourtant, va jouer avec la chaleur, puis avoir donc des impacts locaux incroyables. Puis là, on parle même pas du mercure, puis de la faune, puis des coupes forestières qu'il y a eu autour pour amener le monde là, puis les équipements, puis etc.
En Allemagne, à Berlin, OK, ils ont fait des tests, je pense, c'est l'année passée. Et puis ils ont comparé un peu la région là vraiment où ce que c'était le plus froid, OK. Berlin là, une grosse été là, il faisait comme 33 degrés Celsius. Et puis quand ils regardaient les lacs qui tombaient dans leur structure, c'était une vue satellite là, avec plein de couleurs, rouge étant de la chaleur, bleu étant du froid. Les lacs tombaient à 19 degrés Celsius, et puis les forêts s'approchaient de ça. Et puis quand ils ont fait leur calcul, une forêt ancienne quand on parle d'une forêt ancienne, c'est tout l'écosystème, c'est des forêts peut-être de 150 mm-hmm. et en montant, c'est avec un humus qui est gorgé d'eau et puis tout ça. On fait une différence avec des forêts de feuillus de 15 degrés.
Ouais.
Jusqu'à 20 degrés.
Tu vois,
quand vous regardez peut-être dans le vieux Québec, vous allez voir ça, beaucoup de feuillus peut-être qui a été implanté de par les premiers colons, mm-hmm. parce que c'était leur façon de rester au frais. C'était en dessous des gros feuillus, donc ils ont planté des feuillus. Quand on va dans une forêt de feuillus, on sent tout de suite la fraîcheur. Quand on va dans une plantation d'épinettes, de monoculture, on sent tout de suite la chaleur nous accabler parce que une feuille va refléter le rayon du soleil. L'épine, elle, parce que l'arbre, l'épinette, par exemple, est conçu pour des endroits qui sont froids. C'est un arbre plus vieux que le feuillu. Son but, à lui, c'est de réchauffer le sol. Tandis que le feuillu déteste les sols secs, dont son but à lui, c'est de garder un sol humide. Et on est en train de changer ça, et c'est planétaire. C'est partout. On contourne l'eau, on l'envoie à la rivière.
C'est pas une histoire de CO2, c'est une histoire de travaux, de grandes industries que les gouvernements défendent toujours, puis que les médias ne pointent presque jamais du doigt, sauf une fois aux 5 ans quand Richard Desjardins fait une sortie. Le 15 degrés dont tu parles, c'est absolument intéressant parce que il est question, avec les changements climatiques, sans la serre, donc l'atmosphère que la Terre, on serait 15 degrés de différence avec maintenant et on serait pas vivable. Là, on est à plus 15 en moyenne. En fait, c'est pas 15 degrés, c'est 30. On est à plus 15 en moyenne. Sans la serre, on serait à moins 15. Mais donc, c'est toute une histoire de serre pour eux autres, alors que c'est beaucoup plus local que ça. On est tombé dans une optique. C'est pas l'arbre qui cache la forêt, c'est la forêt qui cache l'arbre. On n'est plus capable de s'occuper des dossiers locaux. On est juste focusé sur le global. C'est vraiment un moulin à vent. C'est pas là qu'il faut travailler. C'est des dossiers locaux comme les coupes forestières qu'on a complètement laissées aux compagnies puis qu'on continue en toute connaissance de cause de laisser comme ça. Puis après ça, on a des catastrophes comme Baie-Saint-Paul. Moi, c'est mon coin où je vais de plus dans le bois, ça. Le parc des Grands Jardins, la ZEC des Martes, c'est juste en haut de Baie-Saint-Paul. Les coupes forestières qu'il y a là, dans le parc des Grands Jardins, c'est un parc national. Ils font des coupes forestières comme des à côté. La ZEC des Martes, on n'en parle même pas. Puis il y a un autre parc national aussi. Puis t'as le parc, le bon vieux parc, là, la réserve faunique des Laurentides aussi qui est collée là, où ça coupe comme décapoté. Les éoliennes qui ont installé là, etc. Comme si ça ne pouvait pas avoir de conséquences. On vient d'avoir deux morts pour ça, puis des problèmes pour des années à reconstruire la 138, puis la zone. Puis ça va revenir à peut-être plus fort encore, là, avec la poursuite, la fuite vers en avant de tout le temps détruire davantage la forêt en pensant que ça n'a pas d'impact. C'est incroyable ce que tu nous amènes là, Ross Lizotte.
En fait, le problème, Guillaume, c'est... Le problème, ça s'appelle l'argent. Il est là le problème.
Ouais.
On a fait l'argent, on a fait le dieu argent.
Ouais.
Et c'est une humanité presque au complet qui se plie devant ce dieu qui est en haut de l'homme. C'est-à-dire que alors que la nature, c'est notre c'est notre chez nous, en fait. C'est de là qu'on vient, l'homme, jusqu'à preuve du contraire. Nous, dans l'arbre, on voit un signe de pièce. Tu sais? Et puis on coupe. Puis l'exemple des Chinois, on va leur envoyer du bois aux Chinois pour qu'ils nous fassent des meubles, pour qu'ils nous le renvoient. Tu sais? Imaginez-vous les paquebots, aller-retour, faire ça. Ben, ça tu sais? Ce qui arrive aussi, c'est que nos gouvernements tapent sur la tête du petit peuple. Il y a tellement de choses qui polluent. Nous, le petit peuple, qu'est-ce qu'on fait? On s'organise avec ce qui nous laisse. Les technologies, les meilleures technologies, ils les gardent pour qu'on fasse la guerre. C'est l'armée qui a les meilleures technologies. On préfère se garrocher des roches que vraiment s'en servir. La journée qu'on va arrêter de voir un signe de pièce dans l'arbre, moi, j'ai des débats avec des gens de l'industrie forestière, l'industrie agricole forestière. Ils me parlent toujours en tonnes et ils me parlent toujours en monétaire.
Mètre cube.
OK? Ouais. Ils me parlent toujours en rendement. Une forêt, c'est pas un rendement. Une forêt, ça, c'est de la vie qui est incalculable. Puis quand je leur parle de vie, ils bloquent, puis ils ont pas
ils ont rien à dire. Mais si on protégeait adéquatement des zones, puis tu sais, comme tu as déjà parlé, on fait des corridors, puis etc. Mais là, c'est il n'y a rien. Il n'y a pas eu de création d'air protégé en forêt boréale depuis, j'en ai mentionné deux, là, mais ces parcs-là, c'est dans les années 70-80. Puis pendant qu'on fait pas ça, ben là, la foresterie est allée partout. Il reste quelques petits mini-trous dans la carte du Québec, notamment la forêt du Triton ici en haut où on n'est pas encore rentré. L'île René Levasseur, je pense qu'il y a une partie qu'on n'a pas touchée. Puis après ça, ben là, c'est la frontière du 52e parallèle où on n'ose pas aller encore. Parce que on se sentirait mal. Ça va prendre 80 ans avant que les arbres se rendent à quelque chose qui leur prenait 8 ans juste un peu plus au sud. Il y a l'argent, mais il y a aussi le petit peuple, nous autres, il y a quelque chose, OK? C'est pas le pick-up, puis c'est pas de s'amuser, puis etc. Par exemple, l'esthétisme extrêmement élevé. Ton gilet, tu as eu aujourd'hui, Chico. Toi, je te connais, tu le sacreras pas nécessairement dans la laveuse quand tu vas arriver. S'il ne sent pas du tout de bas, ça se peut que tu le remettes sur le.
Oui, puis en plus, je l'ai acheté Hughes en passant.
Tiens, mais le standard, j'ai acheté ça Hughes, puis ton char, il y a de la rouille, ton divan, il y a une scratch. Crisse-moi ça sur le trottoir, qu'on redonne notre bois à Chine, puis qu'il nous renvoie ça avec des cossins cheap. Là, c'est la saison en plus des divans. Pas si magané que ça, que j'ai tout le goût de ramasser qui traîne sur des trottoirs partout dans les villes. Ça fait du bien.
Ben, c'est un monde de consommation, Guillaume.
Ouais.
On est dans un monde dès la naissance. Quand on nous envoie à l'école, c'est pour devenir des consommateurs et des producteurs. Okay? Ouais. À l'école, ils n'apprennent pas aux enfants à faire des jardins et puis à juste s'asseoir au pied d'un arbre. Puis être. Okay? Parce que l'arbre, le problème, notre société, quand il regarde un arbre, il voit un 2x4, un 2x6, il voit un balcon pour mettre un barbecue, puis se faire un steak, puis boire une bière. Okay? L'être humain veut consommer cette nature. Il est toujours en train de vouloir consommer ça. Et puis, moi, j'ai eu la chance, malheureusement, j'ai jasé avec des gens très haut placé, puis dans toutes les sphères, aussi basses que ça peut être haut, des haut placés dans des mines, des gens qui font beaucoup d'argent, qui me disaient, Ross, j'arrive pas à être heureux dans la vie, pourtant j'ai une grosse maison, j'ai un gros pick-up, j'ai un 4 roues, j'ai 2 skidoos, ni un pour ma femme, ni un pour moi, un gros garage avec des outils dedans, si tu trouves pas l'outil que tu as besoin, garde, on va aller en acheter en double. Puis il dit, Ross, malgré tout ça, j'arrive pas à être heureux, puis il faut que je leur explique que le bonheur, il est dans notre cœur, il est en dedans de nous autres. Puis on se fait plaisir en achetant puis en consommant, on se fait plaisir en s'achetant un 4 roues.
Éphémère.
Le bonheur, il est en dedans de nous autres. Puis on est là, puis on consomme, puis on consomme. Puis on consomme plus que ce que la planète est capable de nous fournir. Puis je vais vous dire une chose, si on prend un exemple sur les rats, ils ont fait des études sur les rats, ils arrêtent de se multiplier quand ils voient qu'ils vont manquer de nourriture, puis ils continuent à se multiplier quand ils voient qu'ils ont assez de nourriture. Donc, en ce moment, on est plus stupide que des rats, parce que on mange nos ressources, mais on continue. Mais c'est pas de la stupidité, je pense que c'est de l'ignorance, c'est de la mauvaise éducation. Puis ceux qui nous dirigent, ils veulent nous garder dans l'ignorance parce que c'est un système qui est basé sur l'argent, c'est monétaire, donc consommer.
Mais souvent, ils vont rationaliser. C'est pas nécessairement si méchant que ça. Moi, je vais me payer un 3e yacht gros comme un village de la Beauce, là. Tu sais, ça va être. C'est parce que la croissance a apporté des bénéfices. Puis c'est vrai que ça a sorti du monde de la pauvreté, mais c'est parce qu'il va falloir trouver un équilibre à un moment donné pour qu'il y ait un capping à ça. Puis là, ils vont dire, ben tu crois pas à la croissance. Si tu crois pas à la croissance, tu vas te faire dans un système de relations internationales qui est basé sur la compétition, déclassé, et ta population va perdre. Fait qu'on fait de la croissance factice par la démographie, par de l'obsolescence programmée. Mon sel, il y a 2 ans, là, je reçois des textos quasiment à tous les semaines. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne suis pas le standard. Tu devrais avoir un nouveau. Là, puis voyons donc, ton char rouillé, ça, je le vois tellement, ça fatigue du monde. C'est ces standards-là de marde qui justifient souvent en haut lieu par du monde plus intelligent que ça, en disant « Ouais, mais ça aide la croissance. » Mais non, la croissance, c'est pas une fin en soi, surtout pas quand un factice au degré où on l'a amené maintenant avec tout ça. L'hydrographie, tu sais, comment on devrait attaquer ça? C'est vraiment juste les coupes forestières? On peut-tu
viser d'autres? C'est tout. Il y a beaucoup aussi dans l'agriculture. Dans l'agriculture, moi, j'ai eu une conversation avec un agriculteur avec qui j'y expliquais qu'on est en train de briser le cycle de l'eau. Puis lui, c'est un de mes voisins. Et puis j'expliquais, tu sais, j'y disais, ah, où est-ce que... Tu sais, tel champ, j'ai dit, tu sais, en arrière de ça, il y a une cidrière, tu sais, puis en fait, pour être capable de faire pousser ton blé, t'as fait un faux site des 4 côtés pour retirer l'eau.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour assécher le sol, va être capable de faire pousser du blé. Il dit, oui, ben sinon, je serais pas capable de faire pousser mon blé, c'est trop des terres humides. Ben, j'ai dit, tu devrais faire pousser des plantes qui poussent dans une terre humide. Mais il dit, c'est pas ça le marché, il veut. Ben, j'ai dit, je sais, mais c'est pas ça que la planète, elle veut. C'est pas ça qu'elle a demandé. Fait que c'est pas un champ, ça. C'est des millions de champs. C'est une planète au complet qui est faite comme ça. Qu'on force la terre, que ça soit la coupe forestière, qu'après ça, on force la terre à faire pousser des plantes. En Europe, ils se sont rendus à modifier leur épicéa pour qu'ils poussent et qu'ils soient coupables en date de 40 ans.
Mm-hmm.
40 ans. Il y a le trill qui prend 50 ans à sa maturité, qui peut vivre, 50 ans. T'as des plantes qui peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Quand on parle de maturité d'une forêt, on n'est plus là. On parle de maturité d'une plante dans un champ. Je parle beaucoup des coupes forestières parce que la forêt, c'est mon domaine à moi.
Mm-hmm.
Mais c'est beaucoup plus gros que ça. Tantôt,
mais l'agriculture, tu fais bien.
Autoroute, agriculture, ouais.
Mais l'agriculture, je veux juste dire, encore là, on revient au supposé CO2 qui est un poison, qui finalement nourrit les plantes. Puis tu sais, Michel Tardy nous parlait tantôt de religion environnementale. Combien de folies ont été faites au nom de la religion? Mais il y a du bien dans la religion. Ça a été dénaturé par l'homme à des milliards d'occasions. Mais juste l'exemple de l'éthanol dans le gaz pour enlever du CO2, mais ça a fait des champs de maïs x10. Puis ça, dans les cultures violentes pour un terreau, puis une zone géographique, puis tout ce qu'il y a d'hydrologie alentour, etc., ben c'est le champion numéro un. D'ailleurs, Michel Tardy a écrit sa page.
Oui, absolument. D'ailleurs, on salue tous ceux et celles qui nous écrivent en temps réel là, présentement, dont Michel qui dit « En permettant la coupe forestière, on laisse faire de l'argent aux amis qui peuvent se payer des lobbyistes et on fait croire à la population que la cause est les changements climatiques et non l'incompétence des gestionnaires. Et au comble, on fait payer les erreurs à la population. Donc, messieurs, ne faites pas de feu dans des parcs nationaux cet été. »
Sur le site du gouvernement provincial et fédéral, c'est marqué qu'ils utilisent pour jouer avec le
climat. On parlait des chemtrails tantôt.
Ouais, ouais. Ça, j'ai vu des screenshots. Soyez toujours, faites attention. Vous voyez quelque chose passer sur un fil Facebook ou Twitter, peu importe. Essayez de le retrouver après, puis mettez-le en contexte. Parce que oui, il y a une réglementation de... C'est pas l'ensemencement de nuages, non, mais ça veut pas dire que c'est fait à grande échelle non plus. Parce que c'est réglementé. Ça, c'est pas mal moins préoccupant que la gestion de l'agriculture, puis l'expansion de l'urbanité, puis évidemment, les maudites sacro-saintes coupes forestières qu'on n'est plus capable. On est dans un cercle vicieux. On n'est plus capable de sortir de ça pantoute. Est-ce que c'est pire à la deuxième coupe, pas mal, d'une forêt? Tu sais, mettons, ils sont passés en 1987, puis là, ils repassent en 2020, ils vont repasser en 2027. Ross, ça va-tu encore vraiment beaucoup plus exponentiellement dénaturer le comment que t'appelles ça, le fond de la terre d'une forêt, déjà, encore?
C'est l'humus.
OK.
Ben, l'humus prend des milliers d'années à se créer. Donc, s'ils sont en train de transformer des arbres qui soient capables génétiquement d'aller ramasser au bout de 40 ans, ça marche pas. En Europe, il faut qu'ils envoient des avions. Parce que c'est de l'agriculture, c'est ça, il faut que les gens comprennent. Ben, okay? Quand ils ont bûché mes forêts en arrière du camp, ça a été bûché dans les années 30-40. Ce qu'ils ont repoussé, c'est des forêts parce qu'ils ont laissé pousser. Ils n'ont pas décidé.
Ils y allaient avec des chevaux.
Aujourd'hui, on est tombé dans l'ère de l'agriculture forestière, puis puis ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre, puis il faut délimiter des zones là-dessus.
Non, Ross, replanter, c'est la vertu. On replante la vertu. Ça peut pas être mauvais, ça capte du carbone. Là, c'est tellement important la discussion qu'on a là. T'es super à peu près. Ils replantent juste des pinettes.
C'est que c'est de l'agriculture. C'est ça le tu sais, il faut le comprendre, il faut pas nécessairement l'arrêter, mais le comprendre.
Mais si tu le comprends,
le zoner, comment on fait pousser du blé, puis arrêter de se faire accroire que c'est des forêts, parce que ce que l'industrie forestière fait, c'est qu'ils nous manipulent puis ils nous mentent en pleine face. Les deux plus grands mensonges, ça se trouve au niveau du mot forêt et puis ressources renouvelables. Quand ils disent que la forêt est une ressource renouvelable, c'est comme une fausse vérité. C'est vrai qu'une forêt, ça se renouvelle, mais c'est pas ça qu'ils font. C'est pas ça qu'ils font en ce moment. En ce moment, c'est pas des forêts qui se renouvellent, ce sont des champs, et puis on perd toute la biodiversité là-dedans, et puis on brise, parce que là, imagine-toi...
Mais l'hydrologie,
là, on compacte
c'est...
le sol, c'est l'eau, elle rentre.
Regarde, puis il y a personne qui dit de retourner aux calèches, salutation à Eric sur la Facebook Live. Non. Juste qu'on on soit conscient puis qu'on se stratégise en conséquence, qu'on fasse des stratégies qui prennent compte de la vraie réalité au lieu d'être dans les nuages puis de parler de 0.000 quelque chose de CO2 qui a augmenté en 150 ans puis de capoter avec ça. Non, on se fait des aires protégées puis quand, mettons, une zone comme Baie-Saint-Paul qui est très basse, là, je suis pas sûr que c'est pas en bas du niveau de la mer, là, avec des grosses montagnes en haut, mais avant de couper comme des sauvages là-dedans, on va y penser, parce que sinon, ça se peut que ça donne des inondations qui font des décès une fois de temps en temps, plus souvent pas mal que ce qu'on voudrait se le permettre.
Il y a des exemples partout dans le monde. Hein? Je dirais qu'en Allemagne, il y a des bons exemples avec Peter Walben et puis tout ça. Pour moi, une image d'une foresterie qui fait du sens, c'est que le couvert végétal, le couvert forestier reste toujours. Donc, on va simplement chercher l'arbre qui est mature. Dans les années 1870, je me souviens pas du nom, mais c'est un avocat américain qui a essayé de donner des droits aux arbres. OK?
Okay.
Il voulait donner le droit à la maturité à l'arbre. OK? Il voulait qu'on laisse les arbres devenir matures. Mm-hmm. Ça, puis Peter Walben, c'est, Laurent Tillon le fait aussi, c'est des gens qui, eux, ont interdit la machinerie lourde. Ils vont à cheval chercher leur arbre. Okay?
Ça, c'est pas se promener en calèche.
On n'est pas obligé de se rendre là nécessairement, mais nos machines qui pèsent plusieurs tonnes, ouais, ça a des conséquences.
On fasse attention
puis, une
à
vraie
ça.
Bonne foresterie, c'est lorsque le couvert forestier reste. Mmh. Donc, on va chercher ce qui est mature, on reste le reste, il y a un peu d'éclaircie, l'eau, ça pousse. Mais quand on reprend des... Parce...
On fait la coupure en mosaïque, ouais, c'est réglé? Ah non, hey, moi, ta voix, la coupure en mosaïque, ça, c'est qu'il laisse quelques arbres par-ci, par-là. C'est pathétique. Ça devrait être beaucoup plus généreux que ça en termes de ce qui est laissé au minimum. Puis effectivement, la machinerie, depuis que c'est apparu révolutionnaire, je comprends, là, les bûcherons avec des chevaux puis des sciottes à bras, c'était quelque chose. Mais il n'y a pas eu de révision environnementaliste là-dedans non plus. La dernière fois qu'il y a eu quoi que ce soit au Québec de réflexion sur la forêt, c'était au début des années Charest, donc ça va faire 20 ans bientôt, et ça n'avait pas abouti sur de quoi de très intéressant. Il y avait eu un forestier en chef là, qui il est aussi travaillant aujourd'hui que les fonds de la commission de la capitale nationale. Là, on les a écœurés tantôt, j'ai fait un coup de téléphone. Mais... C'est ridicule. On est dû pas à peu près, mais la CAQ me semble le parti de moins bien placé pour avoir ce genre de réflexion-là. C'est affairiste. C'est dans le conformisme petit et simplet purement. Je serais extrêmement surpris qu'eux autres puissent amener quelques réflexions que ce soit ou quelques améliorations que ce soit, même que ça va probablement empirer avec eux autres dans les prochaines années. Excusez, je suis un peu négatif, mais tu sais... J'aurais aimé ça avoir de quoi de... Une belle finalisation, un peu d'espoir, là, comme ils t'apprennent quand tu composes un texte.
Ah, mais il y a beaucoup d'espoir, mon Guillaume.
Ouais?
Il y a énormément d'espoir. Moi je regarde l'humanité comme ma propre vie. Pour embellir puis enrichir ma vie, il a fallu que je me plante. Il a fallu que je me fasse mal. C'est dans ma chute Que je me suis que le changement est arrivé. Moi je crois que l'humanité va chuter, c'est sûr et certain, parti comme ça, c'est sûr.
Puis tout ce monde voter pour la CAQ, ça va aller plus vite. On va pouvoir
ouais, fait brûler du pneu la fin de semaine. Mais je veux dire, je pense que c'est bon pour l'humanité, une bonne claque sur la gueule, parce qu'on va être l'exemple aux futures générations de ce qu'il faut pas faire. Puis je pense que c'est encore mieux que si on virait aujourd'hui puis on se mettrait là vraiment à mieux aller. On est mieux d'avoir une bonne claque sur la gueule. Comme moi, ancien alcoolique, plus jamais je vais toucher un verre d'alcool, jamais, parce que j'ai eu l'exemple. Alors, donnons l'exemple aux futures générations de quoi pas faire. T'sais? C'est comme ça, je le vois.
Le gouvernement se calisse de Baie-Saint-Paul, ils vont payer puis se sacrer des vraies causes. Probablement. En fait, garantie avec ce gouvernement-là. Les arbres qui brûlent en Alberta, on fait quoi? Ben là, ça, premièrement, on avait vendu, tu sais, les avions jaunes, là. Comment ça s'appelle?
Les hydravions?
Non, ouais, non. Un hydravion, c'est pour atterrir sur un lac, là. Des SL, tu sais, 420, une affaire de même. C'était à nous autres, le brevet, on aurait pu faire ça de manufacture pour que ça soit pas cher, que ça soit accessible. On aurait fait de l'argent avec ça, on aurait sauvé des forêts. Non, on a vendu ça à une compagnie, je pense, ontarienne. Puis, en Alberta, d'ailleurs, des gouvernements de style Coalition Avenir Québec Albertains ont enlevé des fonds dans la lutte au feu de forêt. C'est quelque chose qu'on pouvait faire. Là.
C'est
L215, je pense. C'est L215. Excuse-moi.
Les feux de forêt, là, ça a toujours existé. Puis les feux de forêt, en fait, c'est un bienfait pour une forêt. C'est des régénérations. Quand l'humus qu'on l'enlève à coup de bulldozer, puis de toute façon, même si on laisserait là, l'humus, elle peut pas survivre quand que le soleil tombe dessus, quand on fait nos coupes forestières, parce que c'est rempli de vie, ça. Exact. Incalculable le nombre de vies là-dedans. Dans cet humus-là, il y a des graines qui attendent. Des graines, ça peut attendre longtemps. Ils ont fait germer des graines de 2500 ans. OK?
Oh ouais.
Des graines, ça peut attendre extrêmement longtemps dans le sol. Ça l'attend le bon moment.
Pour c'est vrai que ça fait partie
quand
du
quand on pousse ça au bulldozer, on retombe sur un sol qui est... On repart à zéro.
Ah, il n'y a pas d'autre...
Donc, les feux... forêts qui vont brûler, parce qu'ils vont brûler, surtout les plantations remplies d'épinettes, mais que ça brûle, ça va être assez débile. En dessous de ça, il n'y a rien pour régénérer ça. Parce qu'on tasse les graines.
En plus.
Donc, quand il y a un feu de forêt, OK, c'est une très belle passe d'argent pour les coupes les entreprises forestières. C'est comme la tordeuse d'argent. C'est un asti de belle passe d'argent. Puis en plus, ils peuvent tout raser en disant qu'il ne reste plus rien, c'est brûlé. Et... alors que la vie regorge encore dans le sol, n'attend que reprendre.
Ils ont fait ça. Il y a eu un feu dans les années 90, juste en haut de Baie-Saint-Paul, OK? Il n'avait pas touché à ça. Puis là, hop, il y a quoi? 3-4 ans. Ils ont passé par là. Puis c'était, en passant pour l'œil, c'était magique. On aurait dit un genre de cimetière d'éléphants dans les montagnes. Et là, ça a l'air de rien. Ils ont passé là-dedans, ils ont tout défoncé. Puis les explications étaient assez farfelues, là, du genre, c'est pour éviter d'autres feux de forêt. Ouais, maintenant, il est passé, le feu de forêt, de quoi tu parles? Mais par exemple, qu'on réussisse à en éteindre, tu sais, dans une optique, on veut protéger des zones... Pis on veut pas qu'ils s'étendent tout le temps et qu'ils aillent trop vite touchés aux zones qui sont encore vierges. Moi, je pense que faut qu'on investisse pareil dans les infrastructures pour éteindre les feux.
Oui, je suis pas en train. Tu sais, mais moi, ce que je dis, c'est que le feu de forêt, il reste que c'est quand même il y a un certain bienfait.
Ben ça, il n'y a pas de
au travers.
S'il n'y en avait pas du tout, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas de bleuet d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire par passe d'argent? T'sais, là, je viens de démontrer un petit quelque chose dans le coin de Baie-Saint-Paul, mais est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Parce que.
Non, ben quand il y a une coupe forestière, ils ont 2 ans. Pas une coupe, un feu, ils ont 2 ans pour ramasser l'arbre.
OK, mais il est bon pareil.
Ben, il est bon pareil, mais ils vont tout à ramasser. Okay. C'est bon pour eux autres parce que là, ils font une pause d'argent parce que le gouvernement va
octroyer
beaucoup plus de tonnes de bois à aller ramasser. C'est comme quand on protège un endroit, OK? Quand on réussit, mettons, en Gaspésie, à protéger les monts pour les caribous. D'ailleurs, les caribous, ils vont partir à cause des coupes forestières. Quand ils réussissent à protéger un sommet de la coupe, ben c'est plus bas. Ils vont couper plus parce que le gouvernement, il rassure toujours l'industrie forestière parce qu'ils ont dit, vous avez le temps, tant de tonnes de bois. Ben là, l'industrie va dire, ouais, mais ils viennent de protéger ce qu'on coupe. Capote pas, m'a t'ouvrir d'autres places.
Ah oui.
Okay? Ça veut dire que quand il y a un feu ou quand que la tordeuse prend, ben ils vont dire, hey, on va tout raser. Puis je l'expliquais à des gens, c'est dur à comprendre un peu. Qu'est-ce qui est pire entre une tordeuse et la coupe forestière? C'est la coupe forestière. La tordeuse va s'attaquer à l'épinette, va s'attaquer au sapin, mais tout ce qui est au sol, elle ne s'attaque pas au bleuet, elle ne s'attaque pas au monotrope uniflore, elle ne s'attaque pas, regarde, elle s'attaque aux arbres. Okay? Mmh. L'industrie forestière, eux autres, ce qu'ils proposent, c'est d'aller tout raser. Mais pas seulement. Le problème, c'est pas la coupe du bois. Le problème, c'est que c'est une destruction complète d'un environnement.
Hey, on tue pas d'animaux, ben oui. T'essaieras d'élever une famille de carcajou à côté d'un timberjack, toi.
Ben oui. Vous savez, les chouettes, ça leur prend des arbres creux.
Oui.
Pour être capable de nidifier. OK? Et puis, dans des plantations, les arbres creux, il n'y en a pas. C'est toutes des, entre guillemets, des forêts. C'est des champs d'arbres qui ont toutes la même hauteur, toutes la même âge. Une forêt, ça n'a pas toutes la même âge. Une forêt, ça a des arbres morts. Une forêt, ça a des insectes. Une forêt, ça a des chauves-souris. Où sont nos chauves-souris? Ils sont en train de tomber. Moi, à mon camp, quand on ouvrait les lumières le soir dehors, on en voyait passer, on n'en voit plus passer. Des chauves-souris, c'est des grosses mangeuses de tordeuses d'épinettes. OK? Il y a des oiseaux qui c'est des grosses mangeuses de tordeuses d'épinettes. Des oiseaux à mon camp, j'en vois à peu près 5 ou 6 sortes. Je parlais avec une madame, ça fait 25 ans qu'elle observe les oiseaux à son camp. Elle me dit depuis à peu près les 10 dernières années, elle dit la chute d'oiseaux n'a plus. Moi, je suis pas un spécialiste des oiseaux. Moi, je regarde les plantes. OK? Mais si je me fie à cette madame-là, puis si je me fie aux observations que j'ai, c'est vrai que les oiseaux, il y en a de moins en moins. L'autre jour, on parlait des insectes. C'est pas normal que tu fais Rimouski, Montréal, aller-retour, puis t'as même pas besoin d'arrêter de laver ton windshield. Alors, tu sais que dans les années 80, dans les années 90, il fallait que tu arrêtes 2-3 fois laver ton windshield parce que t'as plein d'insectes.
C'est à cause des changements climatiques.
C'est à cause de l'homme. C'est l'homme qui crée un changement climatique. Puis encore là, c'est assez payant, un changement climatique. On peut taxer tout le monde à cause du changement climatique.
Ah, la méchante oligopole du pétrole va manger une volée. Non, non. Premièrement, ils ont des subventions pour lutter contre leur propre contribution au changement climatique. Deuxièmement, t'as fait un autre oligopole, chinois celui-là, qui fait des panneaux solaires puis des éoliennes. Les composantes d'éoliennes les plus importantes sont toutes faites en Asie. Et c'est un oligopole multimilliardaire, des dizaines de milliards de profits par année, c'est patente à gosse. Là, on a juste transféré le problème. Russ, je t'ai interrompu, je te laisse finir, puis on va se laisser là-dessus. Déjà 17h32, man. Ça a été enrichissant, comme d'habitude.
En conclusion, il reste qu'on est dans un monde qui est extraordinaire. OK, faut être positif, faut quand même être capable de voir les choses qui se passent autour de nous, OK? Mais il faut rester à soir là, vous regarderez le coucher de soleil là, il est d'une beauté extraordinaire, ça fait partie de la nature, on fait partie de la nature. Il faut se raccrocher à ça. Puis faut revenir aux sources, puis c'est ça que c'est. Je vous aime les loups.
On t'aime pas.
Moi je pense que dans l'amour on est capable de faire de quoi de popé.
Pas de doute, man. On a aimé ça aussi, c'était merveilleux. Puis là, je vois des commentaires rentrer aussi. Réécouter l'entièreté peut-être avant de mettons, faire une tête. Merci, mon loup. On te suit sur ta page Tilou Ross Lizotte, qui est aussi enrichissante tout le temps qu'est-ce qu'on vient de faire là. Merci. Salut. Bonne
fin de semaine.
Salut, Ross Lizotte. C'était pas mal ça pour les salles des nouvelles.
Yes, c'est pas mal ça pour les salles, effectivement.
Juste le commentaire sur les drones qui crachent du feu. Moi, j'ai vu une vidéo avec, un guépard qui crache du feu aussi.
Ah ouais, moi, j'ai vu E.T. décoller dans un vaisseau spatial en 80 et quelques.
Ouais, mais ça, c'était peut-être vrai. Steve Zuniga nous écoute de Zone Parallèle. Ça va être une belle fin de semaine. D'ailleurs, je pense à eux autres. Zone Parallèle, Zone Insolite, samedi, ça va être magique, comme d'habitude, une des émissions les plus appréciées de la station.
Hey, mais si j'ai bien vu, ils reçoivent Richard Glenn dans les prochaines semaines, je crois que c'est le 1er juin.
Ça me surprendrait, il me semble qu'il a été accusé de viol, condamné, je sais pas trop. Mettons, je veux pas calomnier personne, là. Check donc, parce que là, on va se prendre une minute de plus. Là. Richard Glenn.
Ça se peut pas?
Ben, là, ça sonne, c'est-tu Steve, ça? Steve? Steve, es-tu là? 1er juin, OK. Moi, je dois me tromper de d'autres, là, j'espère.
Ben, je pense que oui, là.
Ouais. Ben, en même temps, condamné puis accusé, c'est deux affaires. Pendant qu'on voit le gros orange.
Ouais, hein?
On s'en va, là, c'est assez. Les deux snows s'en viennent après ce petit beat.